RFI 6h44 en temps universel. La suite des RFI matin dans un instant, c'est la revue de presse. Au lendemain de l'annonce par le Tchad de la fin des accords de sécurité et de défense avec la France et de la reconnaissance par Emmanuel Macron d'un massacre commis par l'armée française à Tiaroy au Sénégal en 1944. Mais d'abord un point sur les autres grands titres de l'info.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Et à la une de premières entorses au cessez-le-feu au Liban, hier au lendemain de son entrée en vigueur, Israël et le Hezbollah se sont accusés mutuellement de violation du cessez-le-feu. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou menace d'une guerre intensive si la trêve est violée. Après de nouvelles attaques massives sur le réseau électrique ukrainien, Vladimir Poutine menace de frapper des centres de décision à Kiev avec son missile Oreshnik utilisé pour la première fois la semaine dernière. Volodymyr Zelensky appelle ses alliés à une réponse ferme face au chantage de Moscou. Ce matin, l'armée russe annonce avoir abattu dans la nuit 47 drones ukrainiens qui visaient pour la plupart la région frontalière de Rostov. Un important incendie s'est déclaré sur un site industriel. Et puis des pourparlers aujourd'hui à Genève entre l'Iran, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Au menu, le nucléaire iranien, les liens de Téhéran avec la Russie et la situation au Moyen-Orient. À la veille de ce rendez-vous, le numéro 2 de la diplomatie européenne dit avoir eu une discussion franche avec deux émissaires iraniens. 7h45 à Paris. Et bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse africaine avec vous et à la une, la France reconnaît le massacre de Tiaroy.
C'est écrit en rouge et en majuscule à la une de Séné+, Paris avoue enfin le massacre de Tiaroy. Dans une lettre à Diomaye, poursuit Séné+, Macron qualifie pour la première fois de massacre la tuerie perpétrée contre les tirailleurs africains en 1944. Le président sénégalais espère désormais un engagement total de la France dans la recherche de la vérité. L'annonce est saluée par le site d'information. Cette reconnaissance officielle marque, nous dit-on, un tournant décisif dans l'histoire franco-sénégalaise après des décennies de silence et de minimisation des faits. De son côté, Sénégo retranscrit une partie de l'interview accordée hier soir à France 2 par Bassirou Diomaye Faye. À la question « Pensez-vous que 80 ans après, la France cache toujours délibérément une partie de la vérité ?» Le président sénégalais répond « On a régulièrement cherché à poser une chape de plomb sur cette histoire et nous pensons que cette fois, l'engagement de la France sera total, qu'il sera franc, collaboratif et entier. » Le bilan du massacre de Tiaroy notamment reste à établir. Il est officiellement de 35 morts, rappelle Séné+, qui cite toutefois l'historienne Armel Mabon. Elle l'estime à 300 ou 400 le nombre de victimes du massacre.
Lors de l'interview qu'il a accordée à France 2 hier soir, Bassirou Diomaye Faye a également fait part de ses intentions à l'égard des troupes françaises basées au Sénégal.
Départ des bases militaires françaises, la grosse annonce de Bassirou Diomaye Faye, titre Sénéweb, qui reprend la réponse du président sénégalais ou journaliste qui l'interroge au sujet de la présence militaire française. Réponse en forme de question. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisageriez de nous voir dans votre pays avec des chars, des véhicules militaires, des militaires portant des tenues sénégalaises? Car sur le plan historique, la France a pris des esclaves, a colonisé et est restée. Bassirou Diomaye Faye qui ajoute « Si la France doit partir, ce sera annoncé aux autorités françaises. » Elles auront la primeur de l'annonce et du calendrier établi.
Et comme en écho, Catherine, le Tchad a donc annoncé hier soir la fin des accords de coopération et de sécurité avec la France.
Tchad Info précise que la résiliation respecte les dispositions prévues par l'accord, notamment un délai de préavis, et que le Tchad s'engage à collaborer avec les autorités françaises pour assurer une transition harmonieuse. L'annonce a été faite quelques heures seulement après une visite du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à N'Djamena. Une annonce inattendue, remarque Tchad Vision, qui fait part de ses doutes. Sans l'appui de la France, nous dit-il, la capacité du Tchad à lutter de manière efficace contre le terrorisme dans le Sahel pourrait être compromise. Les groupes groupes djihadistes déjà actifs dans la région bénéficient souvent de l'instabilité politique et de la faiblesse des forces armées locales. La fin des accords avec la France pourrait rendre le Tchad plus vulnérable à de telles menaces. Tchad Vision se pose dans la foulée la question des autres alliances que le Tchad pourrait contracter et souligne que l'engagement croissant de pays comme la Russie, la Chine et même certains États du Golfe pourraient offrir au Tchad des opportunités pour diversifier ses sources de soutien militaire et économique. Néanmoins, le site d'information tchadien reste prudent, estimant que bien que la fin de l'accord puisse être interprétée comme un pas vers la souveraineté, il est crucial d'évaluer cette décision de manière critique. L'autonomie sans stratégie pourrait conduire à un isolement accru et à des conséquences désavantageuses pour la sécurité et la prospérité du Tchad, ajoute Tchad Vision, qui conclut en forme de prière que chaque acteur, tant national qu'international, prenne conscience de sa contribution à un avenir meilleur pour le Tchad et ses voisins.
Catherine Potet pour la revue de presse, merci beaucoup. C'est un communiqué de la présidence qu'il a annoncé lundi en visite au Vatican. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a plaidé auprès du pape pour la béatification de Monseigneur Émile Biayenda, cardinal archevêque assassiné à Brazzaville le 22 mars 1977, 4 jours après le président Marien Ngouabi. 47 ans après, saura-t-on un jour la vérité sur ces deux crimes dont on ne connaît pas le commanditaire? L'historienne Florence Pernaud est spécialiste de l'Afrique centrale et dirige l'Africa Programme à Sciences Po Paris. Elle est notre grande invitée Afrique ce matin avec Christophe Boisbouvier.
Florence Bernaud, bonjour.
Bonjour.
Alors l'assassinat du cardinal Biayenda était évidemment lié à celui du président Marien Ngouabi, 4 jours plus tôt. Selon la version officielle, le président Marien Ngouabi a été tué par un commando actionné par l'ancien président Massamba Déba, lui-même téléguidé par les puissances impérialistes. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors effectivement, c'est le moment d'une sorte d'alignement du Congo-Brazzaville dans le bloc Chine-Cuba-URSS. Donc on est dans un contexte de guerre froide. Et on pense que, enfin l'historien pense que l'assassinat de Marien Ngouabi, en tout cas, a été commandité par plutôt l'aile un peu gauche radicale, militaire sans doute, du Congo à ce moment-là, qui trouvait que Marien Ngouabi devenait justement un petit peu trop modéré, recommençait à parler avec l'ancien président Massamba Déba. Alors, Biayenda, c'est autre chose.
Le cardinal.
Le cardinal, c'est un peu autre chose. Massamba Déba et le cardinal Biayenda sont du sud. Marien Ngouabi, Sassou Nguesso et beaucoup de militaires, pas tous, mais viennent du nord. Donc, au moment de l'assassinat du cardinal Biayenda, une série d'accusations fusent que ce serait le cardinal Biayenda, en tant que représentant de gens du sud, qui aurait assassiné Marien Ngouabi, donc militaire du nord. Et on pense que c'est surtout en représailles de cette espèce d'accusation d'attaque du sud contre Ngouabi que peut-être un commando aurait assassiné le cardinal.
À l'époque de l'assassinat de Marien Ngouabi, nous sommes donc en mars 1977, le Congo-Brazzaville était gouverné par un état-major spécial révolutionnaire dans lequel Marien Ngouabi partageait le pouvoir avec 4 hommes, le commandant Louis-Sylvain Goma qui était Premier ministre, le commandant Denis Sassou Nguesso qui était ministre de la Défense, Jean-Pierre Tister Tshikaya, responsable de l'idéologie, et Jean-Pierre Gombe, responsable de la propagande. Est-ce que le complot aurait pu être ourdi par l'un de ces 4 hommes ?
Bah oui, bien sûr, puisqu'on ne sait pas exactement pourquoi et par qui Marien Ngouabi a été assassiné. Alors, il y a ce comité restreint dont vous avez parlé, mais il y a un comité un petit peu plus large qui est effectivement un comité militaire. Donc, on pense que c'est plutôt l'aile radicale des militaires, plus à gauche, qui aurait voulu se débarrasser de Marien Ngouabi et finalement accuser les sudistes, dont le cardinal Biayenda serait le représentant symbolique, hein, c'est pas du tout un homme politique, eh bien c'est une façon de court-circuiter les véritables commanditaires. Ceci dit, je répète, on ne sait pas qui, toutes les enquêtes et les hypothèses des historiens et des acteurs de la vie politique au Congo depuis les années 90, personne ne peut dire aujourd'hui qui a vraiment assassiné et Marien Ngouabi et le cardinal Biayenda.
Le 22 mars 1977, le jour de l'assassinat du cardinal, le plus haut responsable de l'État, c'est le commandant Sassoon Nguesso, qui assure l'intérim du pouvoir. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, ce soit le même homme qui demande la béatification du cardinal ?
Oui, alors là, je dois dire que ce n'est pas lui qui demande la béatification. En réalité, le procès en béatification du cardinal Biayanda date de 1995. Donc, je pense que c'est l'Église qui a pris cette initiative et qui maintenant, puisque Denis Sassou Nguesso est à la tête de l'État congolais, eh bien, l'invite à venir pour organiser cette béatification qui apparemment est imminente. Donc, ce n'est pas vraiment lui qui a initié la chose. C'est lui qui peut-être, ironiquement, s'il partage une responsabilité dans le meurtre du cardinal Biayanda, ce qui est possible, mais pas du tout prouvé, eh bien, c'est lui qui va de toute façon, finalement, un peu la superviser, cette béatification. Mais c'est quand même pas quelque chose que lui-même a initié ou qu'il instrumentalise. Donc, les circonstances de l'assassinat sont peut-être effacées par ce procès en béatification, mais à la limite, on pourrait dire l'inverse. Cette béatification, c'est quand même un événement qui provoque des retours et des questions sur l'assassinat. Donc, pour le président Sassou Nguesso, ça l'arrange peut-être pas forcément.
Florence Bernot, merci.
L'historienne Florence Bernot, invitée RFI Matin de Christophe Boisbouvier, entretien à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio. Et bientôt 7h en temps universel sur RFI. Avant le retour de l'info, c'est votre sourire du vendredi, la parlotte de Charlotte avec vous, Charlotte Ntamak. On parle aujourd'hui des voyages et de leur lot de bonnes et de mauvaises surprises.
Oui, ils ont là-bas le voyage et surprise. Ce voyage où l'on fait la surprise d'emmener vers une destination inattendue le conjoint ou la famille. Mais il y a aussi ici comme là-bas ce voyage et surprise où le voyageur planifie son voyage sans mot dire pour faire la surprise à ceux qui ne l'attendent pas dans la destination de voyage. Vous êtes assis dans la cour, voilà un taxi qui gare. Qui voyez-vous descendre ? Le tonton ou la tantine que vous croyez en ce moment outre-mer ? Le frère ou la sœur à qui vous parliez encore ce matin au téléphone depuis Mbeng ? Hé, cousin, tu n'es pas bien, hein ? Donc tu venais même au pays et tu ne me dis pas ? Laisse seulement mon frère. Je voulais vous faire une surprise, non ? Si l'effet de surprise est évident, la surprise peut aussi ne pas avoir l'effet escompté. J'ai dit, hein, là où tu utilises le genre de téléphone rafistolé, si, où est le téléphone dernier cri que je t'ai envoyé ? Volé ? Tu es sûr que tu ne l'as pas vendu comme d'habitude ? S'il y en a qui jubilent pour la surprise, ce n'est pas le cas pour tout le monde, hein. C'est comme si son voyage est surprise, si c'était pour me surprendre, hein. Le voyage est surprise devient souvent un voyage de désillusion où le mbenguiste est désillusionné par sa surprise. C'est ça la maison qui est finie ? Où est la dalle ? Où est passé tout le matériel que j'ai envoyé dans le conteneur ? Ce ne sont pas les photos du chantier-ci que tu me montrais avec tout l'argent que je vous ai envoyé. Wombo, je suis morte. Ma propre famille m'a tuée. Oh. Après le voyage surprise aller du mbenguiste, il y a parfois un voyage surprise retour, après lequel ne soyez pas surpris de ne plus jamais le revoir. Hein. Il y a aussi le voyage surprise où quelqu'un qu'on croyait en voyage fait le voyage retour sans prévenir. Un peu comme ses parents rentrant nuitamment de voyage pour constater que leurs enfants avec leurs amis ont transformé la maison en boîte de nuit. Ou ce retour en sourdine du mari ou de la femme, surprenant l'amant ou la maîtresse bien content de son voyage. Hey, je vois la lumière au salon. C'est comme si le type s'y est rentré. Hein. Pardon, pas vite. J'espère qu'il ne nous a pas vus. Le voyage est surprise est souvent aussi un voyage prétexte faussement organisé. Il la met lui-même dans le car de transport. À peine il tourne le dos qu'elle descend pour le surprendre. Flagrant délit de voyage au 7e ciel, alors qu'il la croyait en voyage. Hé, Alain, donc c'est vrai. Quand on me disait, je ne voulais pas croire. Donc c'est ce que tu fais à chaque fois que je voyage. Lorsque vous planifiez un voyage surprise, n'oubliez jamais que vous pouvez être le surpreneur surpris. À vendredi.
À vendredi, Charlotte. Et merci. Bientôt 7h en temps universel sur RFI. Le journal revient dans 2 minutes. À tout de suite.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
L'intelligence artificielle est présentée comme l'avenir de nos économies. Mais dans les faits, rend-elle les salariés plus productifs ? Et les entreprises de l'IA sont-elles déjà rentables ? Certains investisseurs commencent à exprimer ouvertement leurs doutes et parlent d'un grand mirage financier.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Aujourd'hui, 10% de la population mondiale ne mange pas à sa faim. Alors comment allons-nous nous nourrir en 2050 quand nous serons 10 milliards ? C'est la question que le CIRAD a posée à ses chercheurs pour fêter ses 40 ans. Ils sont nos invités.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
À la veille des commémorations du 1er décembre 1944 au Sénégal, des députés français ont déposé une résolution demandant l'ouverture d'une commission d'enquête afin de faire toute la lumière sur l'épisode sanglant du camp de Tiaroy. 80 ans après, nous revenons sur la fabrique de cette histoire emblématique de la violence coloniale.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
À samedi à 14h10, temps universel sur RFI.
RFI, la sélection du mois.
Les frères Timal. Luigi.
Debi, tu sais déjà que toi c'est le sang, c'est la famille. Je n'ai jamais vraiment aimé comme on s'habille, ton petit ami. Avec quand
RFI Musique.
On sera toujours heureux, tant qu'on leur donne beaucoup, qu'on se contente de.